Et pour commencer, donc c'est Christina De Belaigue qui est lecturer à Oxford, qui est spécialiste de l'histoire des femmes, du genre, de l'enfance, et qui va nous parler donc de femmes et genres dans le monde britannique. Voilà.
Ma présentation diffère un petit peu de ce que nous avons entendu ce matin, parce qu'il s'agit plutôt de tracer une nouvelle approche aux problèmes et aux questions principales de l'histoire du 19e siècle britannique, plutôt que de vous donner, évoquer un sujet de recherche particulier. Donc, je commencerai par présenter un petit peu les nouvelles questions que suscite l'histoire du genre sur l'histoire du 19e siècle britannique. En fait, l'histoire des femmes et l'histoire du genre sont des disciplines ou thèmes assez récents dans l'historiographie des pays britanniques. Au début des années 60, les historiens de la période 1815 à 1931 s'intéressaient peu à l'histoire des femmes et à l'expérience féminine. L'idée de prendre compte de l'influence du genre sur l'économie, sur les structures sociales ou sur la politique aurait paru complètement incongrue. Cependant, pendant les années 70, on a vu la multiplication d'ouvrages qui tentaient de recouvrir les voies et les expériences de celles qui avaient été, selon Sheila Rowbottom, cachées ou ignorées de l'histoire. Inspirées par un féminisme socialiste, ces études exhumaient l'expérience des femmes du 19e siècle tout en soulignant le caractère construit des relations entre les sexes et de la domination masculine. D'abord, n'attirant guère que l'attention de spécialistes, au cours des années 90, l'histoire des femmes et l'histoire du genre devinrent le sujet d'articles publiés dans les périodiques canoniques de l'historiographie britannique. Aujourd'hui, le genre est couramment utilisé comme catégorie d'analyse historique dans tous les domaines. Aujourd'hui, l'histoire des femmes occupe non seulement une place importante dans l'historiographie du 19e siècle britannique, mais soulève aussi des questions et des problématiques qui touchent aux grands enjeux de l'histoire sociale, économique et politique de la période. Je tenterai donc cet après-midi de vous donner un aperçu des questions qui ont attiré l'attention des chercheurs travaillant sur l'histoire des femmes et l'histoire du genre, tout en montrant comment leurs études ont pu parfois remettre en cause les certitudes de l'historiographie britannique et comment elles peuvent transformer notre conception de cette période, de cette période dans le monde britannique. Ma présentation se divise en deux grandes parties. Dans un premier temps, je montrerai comment les historiens du genre ont pu contribuer à notre conception du grand siècle des middle classes. Je reviendrai sur ce terme. Tout en évoquant un des principaux thèmes de l'histoire du genre au XIXe siècle, l'idée des sphères séparées, ou separate spheres. Ma seconde partie se portera sur l'étude de l'histoire politique pour montrer comment les historiens du genre commencent à faire découvrir l'interaction entre le genre et discours et représentation politique. Les titres et auteurs des principaux ouvrages que je cite apparaîtront sur l'écran. Si vous voulez une bibliographie plus complète, vous pouvez me contacter à l'adresse email ci-dessus. Malheureusement, quoique vous les trouverez presque tous à la bibliothèque de la Sorbonne, la plupart des ouvrages que je vais évoquer ne sont pas ou pas encore traduits en français. Mais j'espère que ma présentation vous donnera au moins une idée de leur portée. Autre commentaire, en portant mon attention surtout sur ces deux tendances de l'historiographie, je néglige nécessairement de nombreux autres sujets qui ont fait l'objet d'études dans l'histoire du genre et dans les pays britanniques, notamment l'histoire du féminisme, l'histoire du travail, l'histoire du genre en temps de guerre et l'histoire de l'éducation. Je serai heureuse de répondre, si j'en suis capable, à des questions sur ces sujets à la fin de ma présentation. Donc, commençons. Le genre et le grand siècle des middle classes. L'idée que la période entre 1815 et 1914 se caractérise par la montée au pouvoir politique et la domination culturelle des middle classes est un thème classique de l'histoire de l'Angleterre. Par les middle classes, je veux dire ce groupement particulièrement anglais, sans équivalent direct en France, qui réunit les manufacturiers, les négociants, les professions libérales et la petite bourgeoisie. Quoique aujourd'hui, cette montée est perçue par les historiens comme bien nuancée et compliquée, il est clair que la question de comment nous pouvons expliquer la nouvelle influence des middle classes après 1815 est une des questions principales que doit se poser l'historien du XIXe siècle britannique. Et c'est cette question qui est au cœur de l'un des ouvrages les plus, ayant le plus, plus d'influence sur l'histoire des femmes en Grande-Bretagne. L'ouvrage de Leonore Davidoff et Catherine Hall, Family Fortunes, Men and Women of the English Middle Class. Et c'est Catherine Hall dont parlait, la même Catherine Hall dont parlait tout à l'heure Fabrice Ben-Simon. C'est un titre qui se traduit à peu près comme Fortune et famille, hommes et femmes des classes moyennes en Angleterre. Comme je l'ai déjà souligné, depuis les années 60, on voyait paraître en Angleterre des ouvrages d'inspiration socialiste et féministe qui tentaient de combler les lacunes d'une histoire souvent ignorante de l'expérience des femmes, de reconnaître la continuité d'un système d'oppression patriarcale et de rattacher l'histoire des femmes à l'histoire des relations de classe. Les auteurs de Family Fortunes sont les héritières de cette tradition, mais leur étude témoigne aussi d'une nouvelle tendance dans l'histoire des femmes. Pour les historiens des années 90, comme Davidoff et Hall, il fut plus important d'expliquer comment les rapports sociaux de sexe, comment les identités masculines et féminines se forment et se construisent à chaque moment. Pour ces historiens-là, le genre devient la catégorie d'analyse principale et celle qui, espéraient-ils, contribuerait à une réévaluation fondamentale des processus de l'histoire sociale, politique, économique et culturelle. Ainsi, comme le dit Catherine Hall, nous voulions non seulement replacer les femmes dans l'histoire d'où elles avaient été exclues, mais réécrire cette histoire pour qu'on reconnaisse la façon dont le genre, un axe principal du pouvoir dans la société, fournit un élément essentiel de la structure et de l'organisation sociale. Au cœur de leur ouvrage, on trouve donc la proposition que la formation des classes se rattache à la construction d'identité sexuée. Elle en dépend même. Leur thèse se reposait sur une étude approfondie de la formation de la middle class de province. S'appuyant sur les recensements de population, sur des archives privées de familles bourgeoises, sur les sermons et les manuels de savoir-vivre qui se multipliaient à la fin du XVIIIe siècle, elles inventaient une thèse novatrice. C'est une idéologie de la domesticité qui était au cœur de l'identité middle class en Angleterre et qui la rendit si puissante dans l'économie, dans la politique et dans le domaine culturel au XIXe siècle. Selon Davidoff et Hall, cette idéologie de domesticité avait ses racines dans la séparation de plus en plus rigide entre une sphère publique masculine et une sphère privée féminine, qui se faisait sentir depuis la fin du XVIIIe siècle. Cette idéologie s'inspirait de la pensée du renouveau évangélique, qui était un mouvement très important à la fin du XVIIIe et au début du XIXe en Angleterre. Elles soutiennent qu'en réponse à l'émergence d'un monde de croissance industrielle dominé par des principes de concurrence commerciale, les idéologues de ce renouveau, comme Hannah More, donnaient au foyer familial un caractère pieux et sacré. La femme, être domestique par nature et par vocation, était au cœur de ce foyer, du home, et du home idéal. Dépendant complètement de son mari, elle y élevait ses enfants dans la piété et la moralité et se dévouait entièrement à conserver le foyer où les hommes de la famille pourraient trouver un sanctuaire et échapper aux influences négatives de la vie publique et du commerce. Et comme Hannah More, que vous voyez ici, est l'auteur de nombreux textes qui répètent encore et encore l'idée que la femme doit cultiver ce sanctuaire domestique et qui souligne que le home est au cœur de la réforme morale, du projet de réforme morale qu'on voit, auquel s'intéressent les classes moyennes après la Révolution française. Il y a tout un projet en Angleterre de distancer la vie sociale comme on voit, excentricités françaises et de réformer la vie publique et la vie privée d'une façon morale, inspirée par ce renouveau protestant. Et bien sûr, comme il doit vous être évident, Hannah More occupe une position paradoxale par rapport à ce qu'elle écrit. Elle publie plusieurs livres, elle occupe une place publique importante, tout en insistant sur le rôle privé de la femme. Selon Hannah More, c'est à l'homme qu'il incombait de rendre possible la réalisation de cet idéal domestique par son travail et par la protection du patrimoine de la famille. Comme le montrait Davidoff et Hall, cette idéologie de la domesticité était renforcée par un processus d'industrialisation et de développement urbain qui créait de plus en plus de distance entre le foyer familial et le lieu de travail. Sous l'impulsion de cet idéal de la domesticité, les villes anglaises se dotaient d'une banlieue faite de petits pavillons où chacun pourrait recréer son idylle domestique pseudo-rural, loin des réalités brutales de la vie commerciale. Et si vous allez en Angleterre aujourd'hui, vous voyez que les villes gardent encore exactement ces caractéristiques de ségrégation entre le monde du commerce et le monde privé, et on voit partout des petites maisons qui essayent qui tentent de proposer une vie rurale. Cette notion que l'idéal des sphères séparées déterminait les rapports de sexe au XIXe siècle n'était pas nouvelle. En fait, c'est un concept de plus en plus contesté par les historiens des femmes et du genre pendant cette période. Aux États-Unis, Linda Kerber publia un article critiquant la façon dont les chercheurs se rattachaient si fidèlement à cette notion qui contribuait à reconstruire constamment les mêmes distinctions que leurs prédécesseurs victoriens. En Grande-Bretagne, Amanda Vickery critiquait avec force les conclusions de Davidoff et Hall, fondées, selon elle, sur une lecture erronée de la littérature prescriptive. Les ouvrages de Hannah More, etc., ne pouvaient être lus comme décrivant la vie réelle des femmes. Au contraire, ces publications se multipliaient précisément parce qu'en réalité, la vie des femmes se conformait de moins en moins à l'idéal des sphères séparées. Donc, Vickery et Kerber contestent l'attention que portent Davidoff et Hall sur la notion de sphères séparées. Cependant, Davidoff et Hall étaient moins convaincus de la réalité en vie pratique des sphères séparées que ne le pensaient leurs critiques. En fait, elles insistaient précisément sur le fait que la sphère publique n'était pas véritablement publique et le domaine privé n'était pas entièrement privé, malgré la métaphore des sphères séparées. D'autre part, à la différence des chercheurs qui les précédaient, qui voyaient surtout dans le concept des sphères séparées un mécanisme de la subordination des femmes, Davidoff et Hall soulignaient la façon dont cette idéologie pouvait être une influence positive. Ainsi, elle notait comment l'insistance de Hannah More pour dire que la vocation professionnelle des femmes était de se marier et de devenir mère de famille valorisait l'expérience féminine et contribuait à renforcer les arguments de ceux qui souhaitaient étendre l'éducation proposée aux filles. Avec Family Fortunes, donc, Davidoff et Hall développait une étude qui à la fois proposait une relecture de la notion des sphères séparées et en même temps qui proposait une nouvelle façon de comprendre l'histoire de la montée des middle classes avec le genre comme catégorie d'analyse principale. Pendant les années 90, de nombreux chercheurs partagent l'intérêt de Davidoff et Hall pour ces nouvelles façons de concevoir et de découvrir l'évolution de la société du XIXe siècle. On voit alors plusieurs ouvrages soulignant aussi l'importance de la vie matérielle dans la construction de l'identité bourgeoise et montrant un nouvel intérêt pour les façons dont le genre pouvait influencer et se voir influencé par les pratiques de consommation et l'évolution de la vie matérielle. Par exemple, Amanda Vickery étudiait la façon dont Elizabeth Shackleton, une dame de la gentry de Lancaster, faisait usage d'objets personnels et domestiques pour créer tout un monde de signification. Par ses achats, par la façon dont elle gérait ses finances et la matière dont elle suivait, et la manière dont elle suivait, toujours avec modération, les modes de la ville, Elizabeth Shackleton s'engageait dans un processus d'autocréation qui illustrait l'influence de notions contemporaines de la féminité sur la vie quotidienne des femmes de la gentry, mais aussi leurs limites. Portant son regard sur les femmes de la petite bourgeoisie à la fin du XIXe siècle, Chris Hosgood souligna également l'importance de la consommation. Il soutint que la façon dont celles-ci participaient aux soldes des grands magasins, leur stratégie d'achat, contribuait à la construction d'une nouvelle identité féminine qui remettait en cause les codes de conduite que tentaient d'imposer les grands magasins. Pour Amanda Vickery et Chris Hosgood, comme pour bien d'autres, l'histoire de la consommation et de la vie matérielle permettait d'analyser l'évolution des structures sociales tout en soulignant l'instabilité et la mutabilité des identités bourgeoises et le rôle constitutif du genre dans la création de ces identités. On voit également à cette époque un nouvel intérêt pour l'histoire de la masculinité et pour encore une autre façon de comprendre la montée des classes moyennes. De nombreux historiens soulignent le contraste entre une idée aristocratique de la masculinité fondée, je cite David Offenhall, sur le sport, une conception de l'honneur à l'origine militaire et trouvant son expression dans la chasse, le cheval, le cabaret et la cour faite aux femmes, un idéal de masculinité aristocratique. Et il souligne le contraste avec un nouvel idéal qui insiste sur le travail, la sobriété et le contrôle de soi-même du père de famille bourgeois. Si vous me permettez une illustration un peu caricaturale, c'est un contraste qu'on aperçoit facilement dans les portraits de l'époque. Tarleton est la personnification des vertus héroïques de la masculinité aristocratique. C'est une conception de masculinité qui souligne l'activité physique, le courage, l'élan. Et il est plein de couleurs qu'on ne voit pas très bien dans cette reproduction. Cobden, dont on a entendu parler tout à l'heure, Par contraste, est assis, sobrement vêtu et reposant sa main sur la preuve du sérieux avec lequel il entreprend le travail de député. C'est une conception de masculinité qui souligne la prudence, la maîtrise de soi-même, la sobriété. Évidemment, ce contraste est en partie le produit d'une différence de style et d'époque, mais néanmoins, les différences entre ces deux portraits reflètent un changement important dans les idées dominantes de la masculinité du XIXe siècle. Ce type de contraste fait l'objet particulier de l'étude de John Tosh, A Man's Place, Masculinity and the Middle Class Home in Victorian England. S'intéressant surtout au caractère relationnel des idéaux de masculinité et aux relations entre les deux sexes, A Man's Place s'interrogeait sur la situation paradoxale des hommes de la bourgeoisie au XIXe siècle. Comment négocier entre une situation où, sous l'influence du renouveau évangélique, la domesticité était soulignée comme un aspect définitif de la masculinité, mais où, en même temps, le foyer et l'enfance étaient conçus de plus en plus comme étant le domaine privilégié des femmes. Selon Tosh, ces tensions suscitèrent une remise en cause de l'autorité masculine et paternelle, renforcée par une critique sans précédent de la sexualité masculine. C'est une étude nuancée et subtile qu'il nous propose, reposant sur l'analyse des archives privées de personnalités typiques de l'époque, telles que E.W. Benson, proviseur de Wellington College, une des nouvelles public schools, et futur archevêque de Canterbury. Je vous montre ici son portrait parce que c'est tellement typique d'un certain style et d'un certain type victorien, mais que je crois qu'on rencontre beaucoup moins en France, évidemment, parce que c'est un prêtre marié et père de famille. Mais c'est vraiment, ça c'est le victorien par excellence, d'une certaine manière. L'ouvrage de Tosh propose une nouvelle façon de concevoir l'expérience des intellectuels, des professeurs, des hommes d'église, des membres des professions libérales et autres personnalités des middle classes qui ont si fortement marqué l'histoire culturelle et intellectuelle de l'ère victorienne. En même temps, il démontre comment rendre visible l'homme en tant qu'individu et sexué a des conséquences importantes pour tous les domaines de l'histoire, pour l'histoire de la famille, du travail, de l'entreprise, des classes sociales, des identités nationales et aussi pour l'histoire des institutions politiques. Dans ces mots, pour le dire autrement, les historiens de la masculinité sont bien placés pour démontrer concrètement comment le genre est inhérent à tous les aspects de la vie sociale, même quand les femmes ne sont pas présentes. Cette notion, exprimée par John Tosh, que l'histoire de la masculinité souligne l'ubiquité du genre, se rattache à une tendance nouvelle dans l'histoire du genre des années 90. Sous l'influence du tournant linguistique, l'histoire sociale et culturelle prenait une nouvelle orientation, accordant de l'importance à la représentation et à la signification, plutôt qu'aux catégories d'expérience et aux structures. Pour les historiens du genre en Grande-Bretagne, comme pour ceux qui travaillent aux États-Unis, l'article de Joan Wallach Scott, qui paraît dans l'American Historical Review en 1986, eut une importance décisive. Dans Gender as a Category of Historical Analysis, Scott prenait ses distances du concept du genre comme touchant surtout aux rapports sociaux des sexes et à la division sexuelle du travail. Plus important pour Scott était la construction discursive du genre comme catégorie sociale. De plus, le genre, selon elle, est surtout important comme un des moyens principaux de signifier les rapports de pouvoir. Plutôt que de reconstruire des expériences d'hommes et de femmes du passé, pour Scott, les historiens du genre devaient retracer la construction des discours du genre et la diffusion de ces idées. Elle va même plus loin. En reconnaissant le caractère discursif du genre, le chercheur est confronté à l'impossibilité de découvrir l'expérience réelle, car toute expérience sera sujette à ces constructions discursives. Cette position assez extrême, qui remet en cause la catégorie de l'expérience comme objet de recherche historique, séduit beaucoup moins en Grande-Bretagne qu'aux États-Unis. Mais néanmoins, au début des années 90, l'approche de Scott semblait signaler un nouveau départ dans l'histoire du genre. Et plusieurs publications s'intéressèrent surtout à l'histoire politique du genre, à la façon dont la représentation des différences sexuelles construisent et donnent expression aux rapports de pouvoir. C'est une approche qui a eu beaucoup d'influence dans deux domaines en particulier, dans l'histoire des notions de citoyenneté et l'histoire impériale, dans l'histoire des notions de citoyenneté et dans l'histoire impériale. Ce sont donc des interventions qui touchent, comme l'intervention de David Offerhoe, aux grandes questions du 19e siècle. Comment expliquer le processus de démocratisation? Comment comprendre la rapide extension de l'Empire britannique au 19e siècle? Donc, pour commencer avec l'histoire de la citoyenneté. On a déjà parlé tout à l'heure un petit peu de la notion de Britishness, une intervention importante dans ce débat est l'ouvrage de Linda Crawley, Britons. Un bon exemple de cette première catégorie de travaux sur le genre qui étudie la politique du genre. L'ouvrage de Crawley souligne comment le genre était au centre de la nouvelle identité britannique qui se construit dans le siècle qui suivit l'acte d'union avec l'Écosse. Pour elle, cette nouvelle identité nationale du citoyen était fondée sur un idéal de la masculinité britannique et protestant, définie contre l'autre d'une idée de la France catholique et efféminée. Une notion de cette féminité et une notion de féminité britannique centrée sur le home, creusée du patriotisme, renforçait cet idéal masculin du caractère national. L'étude de Crawley permet d'apprécier la signification d'images telles que celle-ci de Cruikshank de 1816, représentant une jeune Anglaise retournant en Angleterre après avoir passé une année dans un pensionnat français. Ça s'appelle « Le retour de Paris », où la nièce présentée à sa famille par sa gouvernante française. Et bien sûr, Cruikshank se moque également des Anglais et de leurs prétentions en envoyant leur fille à l'école en France pour apprendre les manières françaises. Mais on voit très très bien ici, très clairement, comment sont perçues les différences nationales d'une façon genrée. Donc on voit vous avez sur la droite la gouvernante française et la jeune fille qui revient de l'école en France et le valet. Et le valet, c'est bon, le type soi-disant français efféminé qui se cache derrière les femmes et avec son tout petit caniche et qui parle dans des phrases, il y a tout un dialogue qui va avec, qui parle dans des phrases très très farfelues, très, très élaborées. Et de l'autre côté, vous avez le grand John Bull anglais qui est représenté comme beaucoup plus solide, beaucoup plus costaud, qui protège ces femmes de ces créatures françaises effrayantes, avec la mère ou la tante qui est habillée d'une façon très très convenable par rapport à la mode exagérée et la façon dont est habillée la gouvernante française. Et vous voyez, il y a même le petit chien anglais qui est, contrairement au chien français, se présente et est féroce et défend l'honneur de ses femmes, tandis que le caniche se cache derrière les jupes de la gouvernante. Donc, c'est une caricature, bien sûr, mais ça vous montre combien les idées du genre donnent vie à ces notions d'identité nationale. Mais en même temps, tout en expliquant la construction de ces identités nationales genrées, Crawley reconnaissait la réalité d'une rhétorique du patriotisme féminin en Angleterre. Elle en est amenée à discerner les activités politiques de femmes théoriquement exclues de la vie politique. Elle reprenait ainsi l'insistance de David Offerhoe sur l'importance d'une idéologie de la domesticité, mais en soulignant la construction discursive de cette idéologie, elle en souligne les limites pratiques et attire l'attention vers la dimension politique du genre. Cette façon de souligner l'influence et le rôle politique des représentations sexuées est portée plus loin dans le travail de Anna Clark, « The Struggle for the Breaches », Et je suis désolée pour la traduction du titre, je ne savais pas comment faire. Donc, la lutte des culottes, ça ne donne pas très bien en français. Mais c'est un jeu de mots sur breaches, qui en anglais veut dire la brèche aussi. Donc, c'est la lutte pour la brèche. Dans son ouvrage, Clark revisite le travail de E.P. Thompson, que je vous conseille à tous, pour démontrer comment les représentations sexuées étaient au cœur de la nouvelle identité plébienne au début du 19e siècle. Elle prétend que c'est par l'adoption d'un idéal de la domesticité que les chartistes, sortis de la classe ouvrière, parvinrent à lancer le dialogue avec le libéralisme victorien qui assure la réalisation de certains de leurs objectifs au courant du siècle. En effet, c'est en se rattachant à un idéal masculin bourgeois, du sobre père de famille, chef de foyer respectable, de l'indépendance et de l'autonomie politique, que les hommes des classes populaires ont pu prendre place dans le système politique britannique. Donc, c'est une interprétation qu'on perçoit facilement l'intérêt face à des sentiments comme celui exprimé ici par Latham, un député du Parti libéral, lors des débats autour de l'extension du droit de vote en 1994. Ce n'est pas parce que les hommes payent leurs impôts ou parce qu'ils retiennent ou occupent des terres qu'ils ont le vote, mais parce que ce sont des hommes indépendants et libres. Donc, en fondant le droit de vote sur la masculinité, il est possible d'étendre de plus en plus largement le suffrage sans remettre en question la notion que le vote est encore quelque chose qu'il faut valoir, qu'une responsabilité qu'il faut mériter. Clark propose que c'est de l'exclusion des femmes du suffrage et de cette définition masculine de la citoyenneté que dépendait l'extension progressive du droit de vote au cours du XIXe siècle. Ainsi, elle nous propose une nouvelle façon de comprendre l'évolution du droit de vote en Grande-Bretagne, expliquant comment le suffrage fut petit à petit dissocié de la propriété en s'alignant de plus en plus étroitement à un idéal masculin qui reposait sur l'exclusion des femmes. Et pour d'autres exemples d'études qui proposent une analyse genrée de l'histoire politique, je vous conseille ces deux ouvrages dont je n'ai pas vraiment le temps de parler maintenant, mais qui sont très intéressants. Donc, ce sont des images, les images dont parle Clark, sont des images qui exploitent les distinctions traditionnelles des rôles masculins et féminins dans la famille ouvrière. Ces références s'appuient sur un idéal puissant de la domesticité et soulignent habilement les tensions entre le socialisme et le conservatisme fondamental de la culture populaire. Pour Clark, il était essentiel de reconnaître la façon dont le discours du genre influence et colore le discours politique. Donc pour terminer, je vais vous parler assez rapidement de la politique du genre et de l'histoire impériale que Fabrice Benson a déjà évoqué, donc ce livre même dont il nous a parlé. En fait, ce livre a aussi une dimension pour l'histoire du genre parce que Clark s'intéresse à la façon dont race et genre se construisent entre eux. Et Catherine Hall. Donc, elle propose une étude approfondie des relations entre la Jamaïque et la Grande-Bretagne qui souligne comment la notion de citoyenneté dans la Grande-Bretagne victorienne dépend d'un idéal de masculinité soulignant l'interaction entre race et genre. Donc, elle part du même principe que Clark, mais elle amène la dimension impériale. Hall soutient que pendant les années 1850, on vit la disparition d'une certaine conception de la différence des races provenant des milieux missionnaires, une conception qui soulignait l'idée que les races africaines étaient sensibles à un processus de civilisation. Face à l'intransigeance de la population jamaïcaine, elle dit, envers les efforts faits par les missionnaires pour inculquer leur mort européen, ceux-ci recourent à un discours qui soulignait plutôt le contraste entre les vertus mâles de l'homme britannique et la paresse efféminée des Jamaïcains. Au cours des années 1860, ces différences furent de plus en plus souvent conçues comme des catégories de différences biologiques. Pour Hall, cette conception sexuée de la différenciation biologique soulignait et renforçait la conception exclusivement masculine de la citoyenneté britannique identifiée par Clark et par d'autres. Une autre historienne dans ce débat, Mrinalini Sinha, porte plutôt sur son regard sur l'Inde et surtout sur le Bengale. Elle montre comment la rencontre avec le modèle de la masculinité impériale des public schools et la notion que des populations indiennes étaient essentiellement efféminées eut pour effet de provoquer un sentiment de crise de masculinité parmi les élites hindoues au Bengale. En réponse, certains représentants de cette classe alors développèrent un nouvel idéal qui s'éloignait rapidement des anciens modèles hindous, mais qui devint aussi une source d'inspiration lors de la montée du nationalisme indien. Donc vous voyez ici un représentant de cette classe, Bankim Chandra Chatterjee, qui est poète et romancier du Bengale et qui essaye de créer une nouvelle sorte d'idéal de la masculinité qui réunit certains éléments de ce que apportent les Anglais et leurs public schools sans perdre les qualités particulières qu'ils voient dans l'hindouisme. En insistant donc sur les liens et l'interaction entre l'empire et la métropole, Hall, Sinha et les autres historiens travaillant sur les notions de masculinité et de féminité dans le monde impérial contribuent à ce débat que nous évoquions tout à l'heure de combien était la culture britannique était une culture impériale. Pour moi, la façon dont il montre combien les conceptions de genre courantes dans la métropole dépendaient et se construisaient en relation avec le monde impérial me semble convaincante. Ces travaux démentent de façon convaincante l'idée que les héritiers de Britons de Linda Crawley ignoraient leur empire, mais démentent aussi toute idée que le monde colonial adopta facilement et sans adaptation, les importations du pouvoir impérial. Donc, pour conclure, les histoires du genre ont donc long à dire sur l'histoire sociale, l'histoire économique, impériale, culturelle et politique de la période 1815 à 1931. Aujourd'hui, je conteste qu'il est difficile d'ignorer l'influence qu'ont pu avoir les relations entre les sexes sur le mode de vie des Victoriens et sur les événements du passé. Nous avons encore beaucoup de chemin à faire pour mieux comprendre l'interaction entre les normes sexuelles, l'individu et la société, pour mieux comprendre la continuité et le changement dans l'histoire du genre au XIXe siècle, mais je crois néanmoins que les ouvrages que j'ai évoqués aussi aujourd'hui nous obligent à reconnaître combien l'effort de retracer cette histoire peut nous apporter.